un podcast France Culture.
Au Louvre est présenté un plat à large rebord réalisé à la fin du Xe siècle dans ce qui serait aujourd'hui l'Ouzbékistan. C'est, on le devine au premier regard, un chef-d'œuvre de la céramique de Samarcande. Je le considère pour ma part plutôt comme un monument philosophique. Voyez, ce plat a la forme d'un cercle clair qui diffuse dans le rayonnement de sa couronne une écriture koufique d'un équilibre et d'un rythme merveilleux. Le calligraphe a scandé la phrase qui en décore le rebord par de longues verticales dont la répétition enivre l'esprit. Puis, comme un astre noir placé au centre de ce disque blanc enluminé, presque cosmique, un point légèrement décentré aimante le regard. Que nous apprend ce plat ? Que nous dit-il de la culture, de la foi ? Que nous dit-il de la poésie, de l'art et de la théologie ? Chef-d'œuvre en vie, une collection de Jean Deloisy pour le Musée du Louvre et France Culture.
Splendide vaisselle ou poème spirituel ? Le plat de Samarcande à inscription rayonnante.
Nous avons maintenant presque devant les yeux ce grand plat circulaire dont la blancheur est cernée par une phrase splendidement calligraphiée et dont le centre est heurté par un puissant point obscur. C'est le moment d'explorer les circonstances de son apparition et surtout des significations qu'il put avoir pour l'assemblée raffinée qui, sans doute, voici plus de 1000 ans, à Samarcande, en savourait déjà les significations poétiques et mystiques. Souraya Noujaïm, vous êtes directrice du département des arts de l'islam au musée du Louvre. Il y a un lien particulier entre vous et ce plat. Racontez-nous.
C'est sans doute une des œuvres les plus chères à mon regard et sans doute à ma psyché. Je suis tombée dedans très jeune, à 20 ans. Je faisais l'école du Louvre. Et c'est un plat qui m'a tout de suite aspirée. Vous en décriviez le centre, vous en décriviez les lettres et les rampes hautes qui convergeaient vers le centre. J'ai toujours voulu comprendre, au-delà de la forme, en fait, ce que révélait cet univers résumé dans le plat. C'est un plat qui provient de cette région, les provinces orientales du monde iranien.
Vous voulez dire au-delà de Samarcande ?
Au-delà de Samarcande, alors Samarcande, Nishapur, Bukhara, enfin une région de Transoxiane qui correspond effectivement à l'Ouzbékistan actuel, où un groupe d'œuvres de ce type ont été produites. Elles se caractérisent par une couverte en engobe blanc, crémeux, parfois coloré, recouverte d'inscriptions qui sont en général des adages relevant de la tradition et des dits du prophète Muhammad. Je vais vous la lire en arabe, l'inscription qui dit « Al-hilm awaluhu murrun madaqatuhu, lakinna akhirahu ahla min al-asal, as-salama. » La magnanimité est au début d'un goût amer, mais finalement, son goût est plus doux que le miel à la fin. Et puis des salutations. Donc c'est vraiment une œuvre qui vous emmène dans cette tradition des adabs, de la bienséance, de la courtoisie, du bien-vivre en quelque sorte.
Alors comment à Samarcande et autour et dans cette région vivait-on bien et quel était le climat culturel au Xe siècle ? Qu'est-ce qui se passait ? Quel était le rôle des artistes ? Quelle était l'esthétique ? Quel était le mode de vie ?
Alors, Samarcande est une ville, puisqu'on s'arrête à Samarcande, comme l'aurait dit Amin Maalouf, qui lui a dédié un livre extraordinaire. Samarcande a toujours été, depuis l'époque préhistorique, depuis la période grecque, vraiment un centre de passage. Alexandre le Grand s'y serait arrêté. Les Omeyyades, les Abbassides et les Samanides ont été subjugués par Samarcande. Les Samanides y ont installé une dynastie tout à fait forte et brillante. C'était un milieu vraiment cosmopolite, très mélangé, doté également d'un pouvoir très fort. C'est un milieu baigné de traditions mixtes. Celle des nouveaux arrivants, en fait, les Arabes et l'islam, mais également celle du bouddhisme qui était en place et qui a imprégné vraiment la civilisation.
En fait, Samarcande, à cette époque, et cette région, c'est une étape essentielle sur la route de la soie.
Ça a toujours été, ça l'est de plus en plus. C'est une ville extrêmement riche, s'y côtoient marchands, potiers, poètes, des grands scientifiques, médecins, Avicenne par exemple. C'est une ville déjà où les poètes tiennent une place tout à fait particulière à la cour. Omar Khayyam un petit peu plus tard.
Écoutons, je vous propose, Ibn Battuta qui au XIVe siècle avait écrit ce livre qui a un titre un peu long, « Cadeau précieux pour ceux qui considèrent les choses étranges des grandes villes et les merveilles des voyages ». Il parle de Samarcande, mais pas la Samarcande samanide, la Samarcande du XIVe siècle. Une première destruction a eu lieu, mais il reste encore cette intensité extraordinaire de la ville.
Lorsque j'eus fait mes adieux au sultan Termashirine, je me dirigeais vers la ville de Samarcande, une des plus grandes, des plus belles et des plus magnifiques cités du monde. Elle était bâtie sur le bord d'une rivière nommée Rivière des Foulons et couverte de machines hydrauliques qui arrosent des jardins. C'est près de cette rivière que se rassemblent les habitants de la ville après la prière de 4 heures du soir pour se divertir et se promener. Ils y ont des estrades et des sièges pour s'asseoir et des boutiques où l'on vend des fruits et d'autres aliments. Il y avait aussi sur le bord du fleuve des palais considérables et des monuments qui annonçaient l'élévation de l'esprit des habitants de Samarcande. La plupart sont ruinés et une grande partie de la ville a été aussi dévastée. Elle n'a ni murailles ni portes. Les habitants de Samarcande possèdent des qualités généreuses et ont de l'amitié pour les étrangers.
Battuta nous décrit donc une Samarcande qui n'est plus celle des Samanides du Xe siècle.
Mais une Samarcande qui, dès le Xe siècle, avait réuni autour d'un pouvoir central extrêmement fort et extrêmement structuré, un pouvoir qui remettait en scène la culture persane, une espèce de renaissance persane face au monde arabe, en fait, des Abbassides en place à Bagdad. Une Samarcande qui, dès le Xe siècle, voit se construire un certain nombre de médersas, donc universités théologiques, qui voit se mettre en place les premières khanqas, qui sont des habitations ou des lieux de soufisme. Une Samarcande, je le signalais tout à l'heure, assez cosmopolite, hein, où se retrouvent les marchands des routes de la soie, les poètes, préparant justement le chemin de poètes comme Firdousi un siècle plus tard. Donc effectivement, un centre extrêmement vivace, pas très loin de Bagdad, et une époque de renaissance.
Alors cette époque de renaissance, il y a aussi les potiers qui servent à décorer les palais, à décorer les maisons, à participer aux arts de la table, à avoir un rôle peut-être de décoration symbolique
J'ai l'impression qu'il y a des descriptions de potiers autour de toutes les rues et que c'est une activité considérable.
Alors, au Xe siècle, le décor de bâtiment, comme vous le disiez, est encore parcimonieux. Le mystère que portent les potiers à cette époque-là, c'est vraiment sur les objets. Ils produisent en nombre des objets utilitaires, mais ils produisent également des objets sans doute très symboliques, comme ce plat. Ce sont des maîtres, j'allais dire d'une certaine façon, des maîtres alchimistes, hein, puisqu'ils transforment le matériau qu'ils font de la poussière ou de la terre, un matériau de grand luxe ou de grand raffinement, même si je n'aime pas trop ce mot. Ils en font finalement une merveille, en quelque sorte. Hein. Ils transforment la terre anglaise, ils la peignent. Et il la dote de cet élément le plus transcendant, voire sacré, l'instrument de la connaissance, qui est le texte écrit, un adage, un proverbe, un poème. En somme, tout ce qui fait l'homme de bien.
Cette importance de la poterie a aussi, Souraya Najaima, un sens symbolique.
Oui, la poterie, la glaise, la terre... Elle est l'origine, elle est la fin, elle est le début, elle est l'infini. C'est le sens de la création qui est associé évidemment au geste équilibré de l'artiste, de l'artisan, qui va trouver ou se retrouver dans la forme parfaite. On a évoqué tout à l'heure la technique, qui est une technique finalement assez simple, puisque ce sont des terres argileuses que l'on trempe dans un bain d'argile blanc et que l'on peint avec une peinture ou une matière faite dans gobe brun, recouverte d'une glaçure transparente. Donc vraiment un objet qui est complètement métamorphosé. Un objet également dont les proportions ont été pensées. Voilà, une espèce de cercle parfait, un cercle quasi cosmique en fait.
Avant de parvenir à ce cercle cosmique, il faut manipuler l'argile. J'aimerais que nous écoutions un poème, quelques versets qui nous décrivent cette façon de le faire et tout de suite le poète va en tirer une signification complémentaire.
Ces potiers qui ont la main dans la glaise confèrent à celle-ci la raison, l'esprit et l'intelligence. Ils ont beau la frapper du poing et la bourrer de coups, c'est la poussière de leur père. Qu'est-ce qu'ils imaginent ?
L'argile comme la poussière de nos pères, qu'est-ce qu'ils imaginent ?
Écoutez, je trouve que c'est une très belle, un très beau mot. En l'écoutant, je voulais attirer votre attention finalement sur le fait que les signatures, les noms, les individus, les artistes, les artisans disparaissent finalement ou s'effacent plutôt devant la matière et devant l'œuvre elle-même. Et on a très peu de noms d'artistes, on a très peu de noms d'artisans, on a très peu de noms de calligraphes justement. On a en revanche, sur une production qui est complémentaire, il ne s'agit pas des céramiques de Samarcande, mais plus de faïences abbassides, des signatures, je dirais, en point d'interrogation et qui se rapprochent au texte que nous venons d'entendre.
Vous voulez dire qu'ils sont revenus à la terre originelle et que leur nom est passé dans l'indistinction de l'un.
Et cette indistinction est une qualité. Et j'évoquerai ce mot, une des signatures qui nous dit « Mimma ramalahu, ramalahu, celui qui l'a fait, l'a fait. » Donc, on a pris le temps de écrire, de penser, de inscrire dans le cercle, justement, cette phrase, finalement, pour dire que ce soit un tel ou un tel, c'est vraiment la question de l'unité et du tout. Cet exemple que je viens de vous donner appartient à une production parallèle, à peu près la même époque, à quelques kilomètres au sud, à Bagdad, des faïences dites abbassides qui, dans leur esthétique, ne sont pas très loin de ces fameux plats de Samarcande, Nishapur et Bukhara d'Asie centrale.
Alors la calligraphie à cette époque-là, puisqu'on a autour sur cette poterie extraordinaire que vous parliez tout à l'heure, et ça me touchait beaucoup, de la façon dont on peut concevoir la céramique comme une transformation quasiment alchimique, c'est-à-dire au fond une transformation de soi, c'est un support pour la transformation de soi d'une certaine façon, et cette céramique que nous considérons, qui est d'ailleurs écrite avec une écriture koufixe, qui m'intéresse parce que vous disiez qu'il y a une sorte d'effort de mise en évidence de la culture perse, et pourtant, c'est une écriture arabe qui a été choisie par ces potiers.
Les Arabes, avec la conquête islamique, introduisent en fait la langue et l'écriture dans le monde iranien. Cette langue, cette écriture devient la langue vraiment de l'élite en fait. C'est la langue du Coran par laquelle le message a été transmis par le prophète, le message de Dieu transmis au prophète Mohammed. C'est une écriture, je dirais, dont le graphisme se prête particulièrement à cet art qui va devenir si caractéristique des civilisations d'islam, l'art de la belle écriture, l'art de la calligraphie. Quasiment un geste transcendantal, puisqu'il rapproche le calligraphe, l'artiste, de Dieu.
De la parole de Dieu.
De la parole de Dieu.
C'est-à-dire du Coran. Et est-ce qu'il y aurait un rapport technique entre le fait que les Chinois ont livré aux Arabes le secret du papier vers le 8e siècle et le développement de la calligraphie?
En effet, et puis pas si loin de Samarcande, la légende raconte qu'à la bataille de Talas, qui aurait mis fin, ou en tout cas un coup d'arrêt à l'expansion du pouvoir islamique vers l'Est, deux prisonniers chinois auraient été capturés, alors légende ou pas, et auraient livré le secret de la fabrication du papier. Il est vrai que la variété des supports va faciliter ou va aller de pair, on va dire, avec le développement des divers styles d'écriture, qu'ils soient koufiques dans un premier temps et cursifs dans un second temps. Ce type d'écriture koufique, bon, est pour moi extrêmement esthétique, extrêmement beau formellement. Il porte en lui une forme de géométrie ou de rythme quasiment transcendantal. Et l'aspect graphique que vous décriviez tout à l'heure habite le texte, habite l'œuvre et vous emmène dans un monde qui est un monde vraiment imaginaire en fait.
On a l'impression que cette écriture, qui n'est pas toujours facile à lire, même pour ceux qui parlent la langue, qui la lisent, est sacrée même au-delà de la compréhension immédiate, comme si le mouvement et le rythme portaient déjà la sacralité de la parole.
Le mouvement, le rythme complémentent l'écriture et cette écriture se construit à partir d'un élément de base qui constitue en quelque sorte l'unité mathématique. Et quand je dis mathématique, je vous emmène dans l'ordre du monde, l'ordre cosmique qui régit la création.
Lorsque l'on regarde ce plat, chacune des verticales est extrêmement accentuée et se termine en pointe, comme si chacune des lettres avait dans sa base la pointe d'un calame épointé. Et c'est assez extraordinaire, comme si chacune des lettres produisait sa propre écriture.
Ici, sans doute, sur ce plat en particulier, je crois que c'est ce qui en fait un chef-d'œuvre, c'est vraiment la transformation de cette matière, la terre, l'intervention d'un calligraphe, sans aucun doute, hein, et comme vous le disiez, ces points de convergence, ce décor rayonnant qui se retrouve dans ce centre pointé. J'avais envie d'y voir une influence du yin et du yang venue d'Asie, l'image de forces complémentaires qui régissent le monde. Vous y voyez sans doute, ou peut-être autre chose. Il n'empêche qu'une réunion cosmique autour de cette composition, et je dirais autour même du contenu de l'inscription, me semble vraiment
le sens même de ce plat. Ouais. Et sur le rapport entre cette écriture et ce cosmos, on a la sensation qu'il y a un rythme comme le rythme de la prononciation ou du chant ou du souffle. Est-ce que vous pensez qu'il y a dans l'ambiance de développement du soufisme à cette période-là une influence ou une relation ?
Il y a sans doute une influence, mais au-delà du soufisme, je vous répondrai de façon plus générale, la calligraphie s'observe, se médite, se lit, se récite. C'est un art en total où l'image racontée prend corps dans l'imagination et dans la psyché de celui qui la regarde. Et je crois que c'est ça qui fait vraiment la singularité, finalement, des arts de l'islam. Une ouverture vers une forme d'infini qui est soutenue, vous le disiez à l'instant, par le graphisme, le rythme. Et je dirais même le rythme de la couleur. Ce contraste entre ce fond laiteux, crémeux, etc., et ce contraste avec l'écriture brune doit nous faire réagir. Le très léger relief que l'engobe brun donne à cette composition, l'engobe c'est un bain d'argile, hein, c'est épais, n'est pas là par hasard, et là pour vous faire réagir. Oui.
Pour nous faire réagir, pour nous faire parler, je suppose que ces plats, à cette période-là, devaient faire l'objet de commentaires de la part de ceux qui participaient, au fond, à, non pas à ces repas, mais à ces réunions. Et c'est une tradition que cette inscription d'adage ou de devise sur ces plats. Je voudrais qu'on en écoute trois autres et que vous nous racontiez ensuite comment cette tradition s'est développée et quel sens elle peut avoir.
La connaissance est l'ornement des valeureux, et la raison en est la couronne d'or.
Le plaisir d'un homme cultivé qui en rencontre un autre est comme celui d'un étudiant.
La connaissance est la plus honorable des valeurs, et la vertu est le plus précieux des héritages.
Les valeureux ne donnent pas seulement quand ils sont prospères. Pauvres ou prospères sont pour eux équivalents.
Parlons donc de ces adages qui sont assez particuliers, qui donnent la sensation qu'il y a une leçon de comportement moral ou de distinction qui est donnée à cette période-là par ces plats.
Oui, c'est exactement ça. Je voudrais vous ramener au sens peut-être de ce mot « adab ». C'est aujourd'hui communément appelé la littérature, mais ces adages font partie de cette grande discipline que maîtrise le adib, donc l'homme de bien, l'homme de lettres. Donc une espèce de superposition, je dirais, dès les origines entre homme de lettres et homme de bien. À l'époque samanide, le champ s'élargit d'un champ strictement arabe, bédouin, en quelque sorte, qui se posait en s'opposant à la jahiliya, donc à l'époque pré-islamique. On ouvre le champ vers une nécessité de connaître le monde iranien, le monde indien et au-delà. Donc cette époque samanide et cette production est tout à fait significative. Elle ouvre le champ à une espèce de humanisme, l'humanisme de cet âge d'or de l'époque islamique.
On a l'impression de la création d'une renaissance, un petit peu comme le livre du courtisan de Balthazar Castiglione, qui va donner une façon d'être dans la cour, une façon de se comporter en croyant, une façon de mettre en évidence les vertus et aussi le désintéressement, à trouver une équivalence entre le monde matériel et le monde spirituel et ne jamais favoriser l'un au détriment de l'autre. Donc c'est cette mutation de la société auquel lequel on assiste à ce moment-là.
Et c'est exactement dans ce sens-là que ces adages sont classifiés, des adages qui ont rapport avec la dévotion, qui ont rapport avec l'homme de bien. L'élite, en quelque sorte, se réunit, discute, manie le langage, les concepts, notamment autour de ces adages. Et on peut penser que ces objets ont été les supports, en fait, de ces joutes oratoires. Et j'irais au-delà de l'objet, est-ce que finalement ce n'est pas la poésie qui est le maître mot dans cette œuvre elle-même? Est-ce que, contrairement à ce que l'on peut retrouver dans l'art occidental, est-ce que ce n'est pas vraiment la maîtresse des arts? Donc vous voyez, on a ici une œuvre que je qualifierais de vraiment complète, où matérialité s'associe à une forme de transcendance à travers l'écriture et la langue.
Donc, je comprends que c'est un chef-d'œuvre que vous nous avez révélé, qui est un chef-d'œuvre déjà par sa technique assez extraordinaire et très caractéristique de l'époque, qui signifie quelque chose de très profond par sa matérialité, qui porte les signes d'une transformation de la société, mais aussi d'une influence cosmopolite. Et ce trésor est arrivé au Louvre. Je serais curieux de savoir dans quelles circonstances il est venu jusqu'à vous.
C'est une œuvre qui a intégré les collections du Louvre en 1935. Elle est un don d'un collectionneur fort connu, Alphonse Kahn.
Un ami de Marcel Proust.
Un ami de Marcel Proust.
Avec qui il a beaucoup correspondu.
Exactement, il aurait été un des exemples dont Marcel Proust se serait inspiré.
Bergotte.
Voilà. Moi, c'est une personnalité qui m'a vraiment intéressée. C'est un collectionneur d'art européen, de primitif. Il s'est intéressé très tôt à l'art moderne. C'est un collectionneur de Van Gogh, de Picasso, dont il fait l'acquisition dans les années 1910. Et il acquiert ce plat, une culture qui lui est peut-être étrangère. Il l'achète. Il a dû être fasciné par cette œuvre dont il fait l'acquisition auprès d'un marchand et qu'il nous lègue en 1935.
Merci Souraya Anoudjaïm. Un plat, mais aussi un disque, un cercle métaphysique, ceint d'une calligraphie splendide, qui évoque le raffinement de la société samanide du Xe siècle et son aspiration spirituelle. Aspiration mystique à laquelle surrépondre les artisans, calligraphes, poètes et potiers qui firent de ce plat un monument poétique. Chef-d'œuvre en vie, une collection de Jean de Loisy pour le Musée du Louvre et France Culture.
Cet épisode a été consacré au plat de Samarcande à inscription rayonnante du Xe siècle. Lecture des textes Clotilde M et Michel Escaut. Réalisation Céline Terce. Prise de son Julie Garraud et Antoine Viossa. Coordination Camille Renard et Élodie Piel. Recherche les équipes du Musée du Louvre. Une série à retrouver sur le site franceculture.fr et l'application Radio France.